Henri Irénée Maroux est historien, il est archéologue, il a écrit des livres qui sont bien connus, une histoire de l'éducation dans l'Antiquité, des travaux sur Saint-Augustin. Il est connu au Québec non seulement par ses livres, mais par un enseignement de plus de 20 ans à l'Institut d'études médiévales de Montréal. Henri Irénée Maroux a également participé avec Emmanuel Mounier à la fondation de la revue Esprit, et c'est précisément dans le parc de la maison de Mounier qu'il nous a reçus. Monsieur le professeur Maroux, nous avons eu le plaisir de vous connaître pendant plus de 20 ans au Canada, où vous êtes venu donner des conférences. Maintenant, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être reçus chez vous, dans ce parc magnifique. Pourriez-vous, au début, nous dire un peu où nous sommes et expliquer un peu cette propriété?
Eh bien, nous sommes à Châtenay-Malabry, au milieu du parc, de la propriété qui réunit depuis la fin de la guerre les principaux membres des fondateurs de la revue Esprit. C'est le regretté Emmanuel Mounier qui avait eu l'idée d'acheter ce domaine. Et Madame Mounier continue à vivre là parmi nous. Le directeur actuel d'Esprit, que les Québécois connaissent bien, Jean-Marie Domnac, habite là. Et nous sommes donc le philosophe Paul Ricoeur, qui est aussi un Canadien bien connu. Nous sommes 6 familles, donc, qui sommes réunies ici, à 6 milles de Paris, et dans un endroit tranquille, où l'on peut oublier que l'on est si près de Paris et de la ville.
Formant une petite communauté, en somme.
Oh, le mot communauté est peut-être trop fort. Disons que 6 familles vivent près les unes des autres et reliées par l'amitié. Ne croyez pas que nous faisons popote commune. Nous aimons trop la cuisine. La femme de chacun fait la cuisine de chacun.
Mais vous êtes resté, vous, fidèle à l'évolution du Canada, et particulièrement du Québec. Comment voyez-vous un peu cette orientation que nous avons prise, surtout vous qui êtes venu en 1946, déjà au lendemain de la guerre?
Ah, certainement, je mesure pas la rapidité de votre évolution. Mais rétrospectivement, je suis très sensible à ce qu'il y avait d'artificiel dans ce que était le Québec sous le régime Duplessis, où de façon tout à fait inhumaine, vous étiez maintenu en dehors des courants de la culture contemporaine. Si vous voulez une comparaison, je pense que les ménagères québécoises connaissent ce que nous appelons la cocotte minute, une marmite avec un couvercle bien vissé. Donc, ce qui s'est passé chez vous, c'est que lorsque le couvercle a été dévissé, ça a fait explosion. Et alors très rapidement, il me semble que cette évolution, évidemment bouleversante pour ceux qui l'ont vécu, a consisté essentiellement à rattraper le temps perdu. Et je crois que maintenant, ce qui se passe au Québec s'aligne parfaitement sur ce qui se passe ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou dans le reste de l'Europe occidentale.
Maintenant, vous, M. Maroux, vous avez pratiqué toute votre vie le métier d'historien. Pourriez-vous nous dire un peu ce que ça vous a apporté à vous, cette pratique de l'histoire?
C'est vrai que ça fait longtemps que je fais de l'histoire. Ça fait bien 40 ou 50 ans que... Bien que je sois un spécialiste des périodes relativement lointaines de l'histoire, puisque ma période à moi, c'est l'Antiquité chrétienne, ce qu'on appelle les Pères de l'Église, et à l'intérieur des Pères de l'Église, un certain personnage dont je parle très souvent qui s'appelle Saint-Augustin. Ce sont donc des gens qui vivaient il y a 15 ou 16 siècles de nous. Eh bien, quoique j'ai étudié des gens qui soient très loin de nous, je crois que la pratique de l'histoire, au contraire, n'a cessé de m'ouvrir les yeux sur la situation de l'homme moderne. Plus je connais les gens du passé, plus je suis sensible à l'analogie des problèmes qui se posaient à eux par rapport aux problèmes au milieu desquels nous nous débattons.
Est-ce que c'est dire que l'histoire se répète ?
Ah, pas du tout, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Alors, nous ne nous répétons pas. Au contraire, l'historien découvre une espèce de plaisir morbide que rien ne ressemble tout à fait, n'est-ce pas ? Mais c'est la fraternité humaine que nous découvrons. En réalité, il y a quelque chose qui s'appelle l'homme et les grands problèmes de l'homme. Et ces problèmes-là ressurgissent constamment. Et voyez-vous, ce que vous me demandez, ce que l'histoire apporte. Ce que l'histoire m'a apporté, eh bien, elle arrache le moderne à l'illusion barbare de redécouvrir l'Amérique, comme nous disons nous, Européens, de s'imaginer que c'est la première fois que se posent des problèmes comme cela. Et alors, cela peut être très dangereux pour un esprit, surtout pour les jeunes, qui ont l'impression d'être pris à la gorge par des problèmes insolubles. Alors que nous découvrons qu'il y a 100 ans, il y a 1000 ans, les hommes ont été aussi pris à la gorge par des problèmes difficiles. Et ce sentiment d'élargissement de la vie humaine, l'histoire vous arrache à la naïveté. Et je crois que c'est beaucoup.
Oui. Mais vous-même, dans un de vos volumes sur la théologie de l'histoire, vous parlez à certains moments donnés d'un sentiment de défaitisme qui peut venir de l'histoire, en particulier à partir de cette idée de justement des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous voulons changer le monde, nous voulons révolutionner le monde à chaque génération. Vous donnez en particulier l'exemple du Concile de Jean XXIII, et vous dites au fond, chaque réforme, finalement, comporte toujours une part d'échec. Est-ce qu'il n'y a pas là un certain défaitisme?
Vous touchez là, en effet, à une des doctrines qui me semble le plus chère. Et je tiens à dire que c'est à Montréal que j'ai eu l'occasion de l'exposer pour la première fois, lors d'une conférence à Verlurent, il y a je ne sais combien d'années, peut-être 20 ans. Je me souviens avoir donné à Montréal une conférence qui a été depuis réimprimée, traduite en allemand. Enfin, les gens semblent y avoir attaché un certain intérêt. Et je lui avais donné comme titre l'ambivalence du temps de l'histoire, naturellement, selon saint Augustin. Et qu'est-ce que j'appelais l'ambivalence du temps de l'histoire? C'est justement ce que m'a enseigné saint Augustin, à savoir que nous ne pouvons pas avoir une vision manichéenne du monde où il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre, les uns qui sont tout blancs, les autres qui sont tout noirs. C'est un sentiment de la complexité de la vie humaine. Justement, la réussite et l'échec sont constamment intimement mélangés. Je ne suis pas un défaitiste. Je ne crois pas que l'histoire m'enseigne le défaitisme. Mais l'histoire m'arrache à l'illusion de l'utopie. Vous voyez, ce que j'opposerais à une culture historique, c'est le rêve utopiste, qu'ont toujours eu nécessairement les révolutionnaires, qu'ont volontiers les jeunes. J'étais jeune, il y a longtemps, où on a l'impression que, enfin, ça va réussir. Enfin, on va tout changer, et après, ça sera très bien. Au moment des troubles étudiants de mai 68, une des enfants de mes amis revient l'œil brillant, disant « Maman, on va faire la révolution et puis nous serons tous frères ». Ben non, vous savez, on n'a pas fait la révolution et on n'est pas encore tous frères. Et alors, je crois que loin d'être défaitiste, cet enseignement de l'échec partiel, inévitable, donne à l'homme d'action, en particulier à l'homme politique, une beaucoup plus grande sécurité. Ce n'est pas tout ou rien. Il faut essayer de faire des grandes choses, et puis si on réussit à en faire 20%, 10%, ça sera déjà très bien.
Mais si on parlait un peu de Saint-Augustin aussi. Saint-Augustin que vous avez beaucoup fréquenté, et dont vous dites à un moment donné qu'il nous a appris un art de vivre en temps de catastrophe. Est-ce qu'on n'est pas encore aujourd'hui en temps de catastrophe et est-ce qu'on a quelque chose à apprendre de Saint-Augustin?
Oui, vous savez, moi, plus je les connais, les temps du passé, plus je crois qu'il y a eu des temps de catastrophe. Enfin, le sien en particulier, n'est-ce pas? Et il est certain, parce que, étudiant Saint-Augustin, j'étudie aussi, naturellement, les gens de son époque, vous savez ce qui s'est passé pour Saint-Augustin, n'est-ce pas? C'est au mois d'août de l'année 410, pour la première fois depuis un millénaire, la ville de Rome a été prise par les barbares. Et alors, ça a été, pour les gens qui ont vécu cet épisode, Rome devait être la ville éternelle, que les barbares, c'était les Visigoths d'Alaric, aient pu prendre d'assaut et piller la ville éternelle, a été quelque chose qui les a secoués à un degré inimaginable. Mais vous savez, les gens de mon âge, qui ont vécu deux guerres mondiales, ont l'impression d'avoir connu des choses analogues. Et vous voyez, je ne peux pas mieux comparer l'enseignement de Saint-Augustin à celui que les hommes de mon âge, et vous parliez d'Emmanuel Mounier tout à l'heure, nous étions du même âge, quelques mois près, de tous ceux qui ont fait la revue Esprit dans les années 30. Nous sommes une génération qui est parvenue à l'indépendance intérieure et à la vie de l'esprit au lendemain des grands massacres de la guerre de 14-18. Ceux de nos parents qui avaient survécu, et ils étaient peu nombreux, car vous savez, vous n'imaginez pas ce qu'a signifié pour la nation française les massacres de cette guerre, n'est-ce pas ? Ceux qui avaient survécu avaient l'illusion que 14-18, serait une parenthèse douloureuse, malheureuse dans l'humanité, et que ça redeviendrait comme avant. Mais nous, les jeunes, nous savions que quelque chose s'était brisé et qui jamais plus ne se retrouverait. Alors c'est là où je me trouvais très fraternel avec Saint-Augustin. Saint-Augustin a écrit La Cité de Dieu dans les années 412-426. Vous voyez, il a mis une quinzaine d'années pour assimiler pleinement l'enseignement de cette catastrophe. Et nous, au fond, c'était une quinzaine d'années après la guerre de 14 que nous tirions les leçons de cette autre catastrophe. Vous voyez ce sentiment de fraternité, n'est-ce pas ? Comment l'illusion d'un monde tranquille avait définitivement disparu, et de notre horizon à nous, moderne du XXe siècle, et de l'horizon d'un père de l'Église comme Saint-Augustin. Vous voyez comment, n'est-ce pas ? Je ne quittais jamais les problèmes de la vie réelle.
Mais Saint-Augustin était un point de référence souvent pour ses contemporains. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus d'hommes comme Saint-Augustin à qui on peut se référer. Il n'y a plus de modèles et on cherche des modèles. Est-ce que vous n'avez pas eu cette impression, vous, au cours de votre existence, et en particulier comme homme engagé dans l'histoire oui. de notre temps ?
Notre cas, nous, est un peu particulier parce qu'il faut toujours revenir à ce que je venais d'évoquer, n'est-ce pas ? Ce qui a pu être la saignée démographique de la guerre de 14. Vous voyez, ce qui m'a le plus étonné, lorsque j'ai eu 40 ans, était de voir des étudiants de 20 ans venir me trouver et nouer avec moi des relations intellectuelles très amicales. C'est le cas de Jean-Marie Domnac, le directeur actuel d'Esprit. Je l'ai connu, moi, ayant 40 ans, et lui étant un petit étudiant de première année à Lyon. Or, quand j'avais 20 ans, je n'ai pas connu d'hommes de 40 ans. Ils avaient tous disparu dans la guerre, à part des exceptions extrêmement rares. Oui, j'ai souvent répété ce vers du grand poète allemand Hölderlin, « Nous qui vivons en un temps pauvre en héros ». Je crois que c'était peut-être l'effet de cette guerre désastreuse qui vraiment a saigné à blanc l'Europe occidentale. Vous savez, des grands hommes, des hommes que j'ai vraiment pu admirer et estimer être des génies, il n'y en a pas beaucoup, je peux vous dire leur nom, je vous l'ai dit tout de suite. C'est le père Teilhard de Chardin, d'une part, et c'est Louis Massignon, vous savez, un arabisant illustre. Voilà deux hommes devant lesquels le jeune étudiant que j'étais saluait le génie. Ça n'en fait pas beaucoup, mais ça suffit.
Mais il y a un homme peut-être aujourd'hui qui n'est pas un homme de génie, mais qu'on reconnaît un peu partout comme quand même un point de référence. Et je fais allusion ici à Jean 23. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même chez lui une espèce de physionomie spirituelle qui convient à l'homme de notre époque ?
Alors là, nous sommes sur un tout autre plan. Il ne s'agit plus du génie, le mot que j'ai employé tout à l'heure, c'est-à-dire de la grandeur proprement humaine. Oui, j'ai connu Jean 23. Je l'ai connu de deux manières. Je l'ai connu sous le nom de Monseigneur Calli, nonce à Paris et plus tard comme pape. Ça alors, c'est la grandeur de l'esprit, au sens non plus humain, mais au sens vraiment surnaturel du mot. Si quelque chose peut vous donner le sentiment qu'il y a dans l'homme autre chose que la simple nature, c'est certainement la rencontre d'un homme comme lui. Là, je peux vous rappeler une anecdote qui m'avait beaucoup frappé. Nonce à Paris, Monseigneur Roncalli avait visité naturellement les colonies, l'Algérie, enfin, qui était encore française à ce moment-là. Et visitant les fouilles d'Hippone, où nous avons dégagé une magnifique basilique du temps de Saint-Augustin, précisément, il rencontrait un ouvrier arabe, du chantier de fouilles. Et il a su se détacher des archéologues qui l'accompagnaient et échanger quelques mots avec ce simple ouvrier. Et celui-ci a immédiatement reconnu qu'il avait affaire à un homme de Dieu.
Et ce n'était pas un chrétien.
C'était un musulman, bien entendu. Et je l'ai entendu, ce vieil arabe, dire, cet homme, eh bien, il a su parler à un simple, pauvre arabe comme moi et lui faire comprendre qu'il était un homme de Dieu. Et lorsque est arrivée l'élection du pape, ce vieil arabe a passé toute la soirée pendu à son transistor pour essayer de savoir qui allait être pape. Il faut que ce soit Roncalli. Et lorsque il a été élu, il a aussitôt écrit une lettre bouleversante de simplicité. Moi, c'est là où je sens ce passage de la nature à la surnature, de la grandeur humaine à la grandeur spirituelle. La grandeur spirituelle, c'est celle qu'un ouvrier musulman, illettré, peut ressentir simplement pour quelques mots, quelques regards échangés.
Maintenant, vous n'êtes pas simplement un historien, il y a quelque chose d'un peu surprenant chez vous. c'est que vous vous êtes intéressé, et même assez passionnément, à la musique. Est-ce que la musique vous intéresse toujours ?
Oh, bien sûr, bien sûr. Je ne peux pas, bien entendu. On ne peut vivre qu'une vie à la fois. Lorsqu'on a 20 ans, on croit que tout sera possible et que l'on pourra faire un travail d'historien d'une part et un travail de critique musicale de l'autre. Je continue à faire quand même un peu de critique discographique. Je fais partie d'une académie qui s'appelle l'Académie Charles Cros, qui chaque année donne le prix international du disque, qui choisit les meilleurs disques parus dans l'année. Et c'est une expérience très intéressante pour moi que de travailler ainsi avec des critiques musicaux, des responsables d'émissions à la télévision et à la radio, et de sortir un peu du ghetto des érudits et des professeurs.
Des intellectuels. Maintenant, vous êtes aussi connu comme un homme de foi, comme un chrétien, et dans ce domaine-là, vous n'avez pas hésité à vous compromettre, et encore tout récemment, en lançant avec des collègues une revue qui s'appelle « Les Quatre Fleuves », dans laquelle on trouve une préface assez étonnante d'une affirmation de foi et d'une affirmation de foi, d'une recherche de la foi par des laïcs, d'un approfondissement de la foi par les laïcs. C'était important pour vous, cette foi dans votre vie ?
Je vous demanderai de modifier un des mots que vous avez employé. Je ne me suis senti compromis en aucune manière en étant moi-même, n'est-ce pas ? Être chrétien, on cherche à l'être. Personne n'ose se dire chrétien. Le Seigneur seul peut le mesurer. Oui, je suis catholique et je le reste, n'est-ce pas ? Vous savez, notre situation, nous, catholiques français, ressemble maintenant beaucoup à celle qui peut être celle des catholiques au Québec, n'est-ce pas ? Nous sommes une petite minorité dans notre nation, n'est-ce pas ? Autrefois, la France, comme le Québec, a été un peuple de tradition chrétienne où les gens recevaient le baptême en naissant et recevaient la religion en même temps qu'ils apprenaient, je ne sais pas, moi, les règles de politesse et les règles d'arithmétique. Enfin, c'est fini, ça. C'est fini. Enfin, maintenant, nous sommes, et c'est là encore pourquoi les pères de l'Église me paraissent si fraternels, nous sommes comme au premier siècle du christianisme. Nous sommes une petite minorité à l'intérieur d'une civilisation qui, pour être post-chrétienne, est essentiellement non-chrétienne. Et par conséquent, si l'on veut être chrétien, il faut l'être par une décision personnelle, approfondi, réfléchi, et lorsqu'on est un intellectuel, naturellement, avec un arrière-plan rationnel suffisamment solide pour que ça soit une foi qui mérite le nom de foi et non pas une vague croyance ou une superstition.
Une chose contre laquelle vous semblez vouloir mettre en garde vos lecteurs éventuels dans le liminaire, dans la préface de ce premier numéro, c'est une foi qui serait axée uniquement sur une pratique, qui insisterait trop sur le passage à l'acte. Aujourd'hui, on dit que le chrétien doit se manifester dans ses actes, et vous, par ailleurs, vous semblez prendre une certaine distance par rapport à cette affirmation.
Non, bien entendu. Naturellement, il y a des choses qui vont de soi. Alors, on finit par ne plus avoir besoin de le répéter. Bien entendu, ça c'est déjà dans l'épître de Saint Jacques, la foi sans acte est une foi morte. Il faut bien entendu manifester sa foi par une réalité concrète. Mais ce que mes amis et moi avons ressenti comme un danger, était un activisme, c'est-à-dire des gens qui se précipitent dans l'action sans bien savoir ni pourquoi ni comment ils agissent. Et nous pensons, nous, précisément parce que nous vivons dans une époque post-chrétienne, dans une civilisation déchristianisée, il est nécessaire, pour être chrétien, de savoir exactement ce que cela veut dire. Et en effet, l'effort que nous espérons pouvoir développer dans cette revue, ou tout au moins dans cette série de cahiers, c'est une redécouverte de la structure dogmatique de la foi chrétienne. Nous croyons qu'il y a un certain péril dans le besoin d'extériorisation qui est très frappant à notre époque, et qui est une très bonne chose, encore une fois. Une foi qui n'agit pas n'est pas une foi sincère, c'est évident. Mais enfin, qu'est-ce que la foi ? Je suis extrêmement sensible, et là aussi parce que je crois connaître cette histoire du christianisme que j'enseigne en tant que historien, je suis très sensible au contenu dogmatique du christianisme. Le christianisme n'est pas simplement une pratique, il est une adhésion réfléchie consciente à un certain nombre de choses tenues pour vérité. Donc il y a un effort de redécouverte de la structure rationnelle de la foi, bien qu'elle dépasse la raison, de la structure dogmatique de la foi chrétienne.
Il y a une chose sur laquelle vous insistez aussi, c'est que la foi n'est pas une affaire facile, que la foi reste toujours quelque chose de difficile, et vous dites que même elle l'était dès les premiers siècles de l'Église.
Mais c'est évident, c'est pour ça que tout naturellement on se met à citer des paroles de l'Évangile. Si nous avions vécu en Palestine dans les années 30, nous aurions pu croiser sur les routes un certain rabbi, Yeshua de Nazareth, celui que nous appelons Jésus-Christ, il aurait été aussi difficile de reconnaître en lui ce qu'il était, qu'il peut être aujourd'hui d'avoir foi dans celui que nous appelons Jésus. Mais vous voyez, il suffit d'ouvrir l'Évangile, n'est-ce pas ? Nous mettons là en jeu, n'est-ce pas, ce qu'il y a de plus profond dans le christianisme, n'est-ce pas, ce mystère de l'adhésion libre. Dieu n'a pas voulu forcer la liberté humaine. Le Verbe incarné s'est présenté sous des formes tellement modestes qu'elles étaient ambiguës, que les gens pouvaient ne pas savoir qu'ils avaient affaire à celui qui était le Fils de Dieu. Et je ne vois pas de différence entre essayer d'être chrétien dans la deuxième moitié du XXe siècle et avec les tout premiers chrétiens. Eux aussi ont eu les mêmes difficultés.
Mais j'oserais vous demander peut-être d'essayer de réunir un peu cette expérience d'historien et cette longue expérience aussi de foi chrétienne pour nous dire un peu ce que vous pensez que les chrétiens doivent être dans le siècle d'aujourd'hui, dans l'histoire que nous faisons.
Ça, ça les regarde, n'est pas tout dépend de l'insertion. Les chrétiens ne doivent faire à peu près les mêmes choses que les autres hommes, c'est-à-dire travailler sur les mêmes chantiers, travailler à faire régner plus de justice, à faire régner la paix parmi les hommes, etc., etc. Mais pour d'autres raisons que les autres ne le font. Enfin, les chrétiens sont essentiellement des gens qui croient dans une certaine révélation, croient qu'ils sont connus de Dieu, qu'ils sont aimés de Dieu, et que par conséquent, ils doivent lui rendre quelque chose. Nous touchons là un domaine où il est plus facile d'essayer de vivre que d'exposer devant une caméra. Ce sont des choses qui ne peuvent guère se faire sentir, mais elles peuvent se faire vivre.
Maintenant, aujourd'hui, on a l'impression que, justement, le christianisme intéresse de moins en moins de gens. On a aussi l'impression que l'histoire intéresse de moins en moins de gens. On a l'impression qu'au fond, on veut actuellement rejeter toute une série de choses et qu'on est plus sensible au choc du futur qu'au poids du passé et d'une histoire et d'une tradition chrétienne.
Il y a un bon et un mauvais usage de l'histoire. Ce que l'on rejette, c'était, eh bien, ce que vous voyez, hélas, je me souviens avoir, avec désolation, rencontré au Québec il y a 30 ans, n'est-ce pas, ou que nous avions connu en France un siècle avant, c'est-à-dire où l'histoire, ça veut dire, voilà ce qui s'est toujours fait, voilà comment il faut faire, parce que les pères ont fait ceci, les grands-pères ont fait cela, il faut continuer. Ça n'est pas ça l'histoire, c'est le contraire même de l'histoire, puisque l'histoire, vous faites allusion aux recherches d'épistémologie que j'ai pu faire, l'histoire c'est avant tout la rencontre de l'autre. Découvrir qu'il y a une autre manière d'être un homme que celle que nous étions spontanément tentés d'être par tacite reconduction. Au contraire, l'apport de l'histoire, c'est de nous affranchir de l'histoire. C'est pas moi qui dis ça le premier, rassurez-vous, c'est Goethe, le grand poète allemand, qui l'a dit dès la fin du XVIIIe siècle. Je fais de l'histoire pour me libérer du poids de l'histoire. Vous sentez ce qu'il y a d'un peu paradoxal. Mais enfin, si vous vous souvenez de ce qu'a pu être le poids de la tradition chez vous, mais chez nous aussi, on comprend très bien que surtout la jeunesse trouve insupportable qu'à l'avance, on lui dise que sa vie devra suivre certaines normes, viser à telle fin. Alors, on se sent prisonnier. Or, si vous faites un peu plus d'histoire, vous découvrez que cette prétendue tradition, c'est un hasard, c'est un aspect très particulier, très momentané, ce que votre père ou votre grand-père ont connu, mais ça ne date que de 50 ans ou de 100 ans. Nous, nous pouvons monter maintenant à 4000 ans avant Jésus-Christ. L'histoire me fait connaître d'autres manières d'être un homme. Et au fond, je fais de l'histoire pour acquérir un élargissement de mon expérience humaine et pour pouvoir donc être plus libre à l'égard du futur.
Mais est-ce que aussi les chrétiens ne sont pas portés actuellement à tout rejeter le passé ?
Eh bien, c'est contre cela que nous allons lutter. C'est paradoxal. Comment peut-on rejeter le passé lorsqu'on se dit chrétien, c'est-à-dire que l'on prétend être fidèle à une religion qui remonte à l'an 30 après Jésus-Christ ? Vous ne pouvez pas rejeter ce qui s'est passé pendant 19 siècles. Ou alors, ce n'est pas du christianisme. Ce qu'il faut, c'était bien ce que Jean 23, réellement poussé par l'esprit, a senti qu'il fallait faire lorsqu'il a convoqué le deuxième concile du Vatican. C'est qu'en italien, il appelait aggiornement, ce qui veut dire tout simplement secouer la poussière des dernières générations pour retrouver la structure fondamentale et celle-là durable du véritable christianisme.
Et en même temps, quand même chose étrange, on semble vouloir revenir aux sources, mais se priver de tout ce qu'il y a entre cette source et le ici maintenant.
Mais c'est là où les historiens ont quelque chose à enseigner à leurs contemporains, justement. C'est qu'on ne peut pas supprimer cet héritage. En réalité, il y a une médiation des siècles intermédiaires. Je n'atteins pas Jésus-Christ directement. J'atteins Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Mais si je connais le Nouveau Testament, c'est parce qu'il y a une église qui me l'a transmis. Mais c'est vrai pour tout. C'est vrai pour la tradition politique, pour la tradition sociale. En réalité, nous sommes les héritiers d'un passé. Mais nous, les hommes, nous sommes capables de savoir de quel passé nous avons recueilli l'héritage. Et, comme disent les juristes, on recueille un héritage sous bénéfice d'inventaire. C'est-à-dire, en sachant que cela vous est offert, nous recomposons le contenu de l'héritage culturel. Si nous ne faisons pas d'histoire, nous héritons d'un passé qui s'impose à nous, malgré nous. Si nous connaissons la manière dont, historiquement, il s'est formé, nous sommes libres d'accepter ou de refuser certaines parties de cet héritage. Donc, l'histoire est une conquête de la liberté.
Mais cela nous apporte-t-il quelque chose pour demain, pour l'avenir ?
Oui, alors là, l'historien, lui, est fort tranquille. Il sait que l'histoire est imprévisible. L'histoire élargit notre culture, nous fournit des instruments beaucoup plus riches, beaucoup plus variés, et souvent inattendus, pour élaborer notre futur. Mais le futur n'est pas inscrit à l'avance. Le futur, c'est notre action qui doit le créer.